Quand j'avais entre 17 et 19 ans, j'étais en vacances en Suisse avec mes parents et puis on a été invité pour un repas chez des amis. Ce couple, il avait trois enfants, deux filles et un garçon. Et puis après le repas, les enfants ont proposé de jouer à un jeu de société appelé Si t'es fauché, t'as gagné. Le but, c'est d'être le premier à n'avoir plus de sous à la fin. Du coup, tu peux parier le plus possible au casino, si tu veux, ou miser sur une course de chevaux en essayant de miser fort sur celui qui va perdre. Vraiment très éducatif comme jeu de comment gérer les finances. Et c'est dans cette famille que je suis encore connu aujourd'hui comme tricheur dans les jeux, parce que d'une manière très discrète, je jetais de l'argent par-dessus le canapé pour essayer d'avoir le moins d'argent possible. Et puis ils ont fini par découvrir qu'il y avait de l'argent qui était hors boîte. Personne n'a envie de vivre de cette manière-là, je pense, en dépensant pour des futilités dans la vie, sauf s'il a perdu la tête. La majorité veut plutôt vivre comme Monopoly, avoir des biens qui rapportent encore plus d'argent à chaque tour, ou alors le jeu de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la vie. C'est aussi un jeu de plateau et tu décides si tu veux faire des études ou commencer directement à travailler. Et ensuite, tu prends des décisions, si tu veux choisir un métier ou acheter une maison ou se marier ou avoir des enfants. Et tu gagnes et tu perds de l'argent selon les choix que tu fais pendant le jeu. Et puis, il y a des cartes actions, genre, vous prenez une carte, vous avez gagné un concours au supermarché, recevez 10 000 euros. Ou vous adoptez un animal de compagnie, payez 8 000 euros. Ou vous êtes diplômé, gagnez 90 000 par tour. Ou vous achetez un appartement au centre-ville, payez 300 000. Ou vous contractez une assurance pour vos biens, payez 1 000 par tour. Et dans ce jeu, le but, c'est d'arriver à la retraite avec le plus d'argent. Ça peut être un peu drôle comme jeu, mais ce n'est pas non plus le but de la vie. Et vous savez très bien. Par contre, une chose que tous ces gens ont en commun avec la vie. Une chose que tous ces jeux ont en commun avec la vie, c'est qu'à la fin, tout va revenir dans la boîte. Les maisons, les diplômes, les assurances, tout retourne dans la boîte. Les Égyptiens, eux, ils étaient enterrés avec les biens. Ils croyaient qu'ils pouvaient emporter quelque chose après leur départ. Mais c'était qu'une illusion. De nos jours, j'ai jamais vu un cercueil ouvert avec le défunt qui tenait la clé de sa voiture dans la main. Et si Dieu avait une perception différente de l'argent que nous? Pendant cette série, j'ai parlé que le plan de Dieu pour nos finances se résumait à cette séquence qui est un prochain diapo, donner, épargner, profiter. Les deux premiers dimanches, on a parlé sur donner avec les commandements bibliques de la dîme et de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Et je n'ai pas pu répondre à trois questions qui viennent souvent quand on parle de ces sujets. On n'aura pas le temps de les aborder, mais je veux juste les lister pour dire que j'ai pensé à ces questions-là du côté donné. Genre, est-ce qu'il y a une base biblique pour que la dîme soit donnée à l'église locale? Alors oui, il y a un texte qui dit de la donner localement sans vouloir la contrôler, mais je ne vais pas commenter. Est-ce que Jésus a validé le commandement de la dîme? Je dirais qu'il a répondu oui, mais. Il a dit oui, mais. Il y a aussi un texte sur ça. Est-ce que ce n'est pas juste de prendre la dîme, mais plutôt la donner à ceux qui sont dans le besoin? Je pense que c'est deux choses différentes. Ce sont deux commandements essentiels dans le donner. Mais Jésus, au moins dans une occasion, a dit clairement non à cette question, qu'il fallait pas prendre quelque chose à lui et donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais je n'aurai pas le temps de répondre en profondeur. Peut-être dans 2 ou 3 ans, on referait une série et on pourra discuter ces points-là. Aujourd'hui, on va parler sur épargner et profiter. Je pense que épargner, c'est une valeur que le Suisse, en général, valorise beaucoup. De famille suisse, je sais que dès l'enfance, on nous apprend à économiser de l'argent pour pouvoir acheter quelque chose. Économise de l'argent. Et la Bible est d'accord avec ça. La Bible dit que la richesse trop vite acquise disparaît vite, mais celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Épargner, c'est une manière de gérer l'argent validée par la Bible. Mettre de l'argent de côté petit à petit. La richesse qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Et c'est intéressant qu'il dit que la richesse trop vite acquise disparaît vite. Vous avez certainement déjà lu beaucoup d'histoires de personnes qui ont gagné à la loterie et qui, après quelques années, ont revenu au même stade financier qu'avant. Ils ont tout vite dépensé. Épargner, par contre, prend du temps. Et alors, ça apprend la patience. Et ça apprend aussi la valeur de chaque chose matérielle sur Terre. Un de mes amis qui était facteur, un homme très généreux, qui se souciait réellement des faibles et des pauvres, il aimait me dire, Thierry, tu sais, il n'y a rien qui est gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui a payé. Un café que quelqu'un t'offre, ce n'est pas gratuit, quelqu'un a payé. En fait, même le salut n'est pas gratuit. Quelqu'un a payé pour qu'on soit sauvé, il a payé très cher pour qu'on soit sauvé. Donc même ça, ce n'est pas gratuit, il a dit. Et puis c'est vrai. Et épargner nous apprend cette leçon-là. Une maman ici à Aube me disait qu'elle conseillait ses enfants comme ça. Si tu as envie d'acheter quelque chose, tu vas dans le magasin voir le prix. Si tu n'as pas l'argent, donc tu mets l'argent de côté pour pouvoir l'acheter. Ok, c'est normal, jusque-là. Mais elle a dit qu'elle enseignait aussi. Si tu as l'argent, tu attends quand même un, deux jours avant d'acheter. Si tu as toujours envie d'acheter après ce temps, donc achète. Sinon, ce n'est pas nécessaire. C'était juste une envie qui passe. Et du coup, tu n'avais pas vraiment besoin de ce que tu voulais acheter. C'est un très bel enseignement. Et c'est plein dans le mille, dans l'enseignement biblique. Faire des plans et ne pas aller trop vite. La Bible dit aussi, celui qui fait des plans devient riche. Celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Donc, aller lentement pour aussi savoir si on en a vraiment besoin. Parce qu'une chose qu'on sait très bien faire, c'est se tromper nous-mêmes. On voit quelque chose dans un magazine et on se convainc qu'on en a besoin, nous-mêmes. Et le conseil de cette maman est juste parce que la Bible dit clairement qu'on a tendance à se tromper soi-même quand on veut quelque chose. On veut absolument quelque chose, du coup on se fait des raisonnements pour l'atteindre parce qu'on a déjà décidé qu'on veut. Du coup on se trompe nous-mêmes. Et dans 1 Timothée, Paul conseillait comme ça. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'en pouvons rien emporter. Du coup il est en train de dire, tout va revenir dans la boîte, comme dans les jeux. Par conséquent, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Ces désirs insensés de posséder qui peuvent pas seulement nous mettre dans des situations financières difficiles, mais même nous égarer de la foi, encore pire. Dans la région où on vivait, par exemple, il n'y avait pas beaucoup cette culture de l'épargne. Chaque salaire était en règle générale entièrement dépensé dans le mois qui est gagné. C'était un peu ça... le mode de vie des personnes de la région où on vivait. Du coup, si quelqu'un avait envie d'acheter quelque chose après que l'argent était terminé, qu'est-ce qu'il faisait? La carte de crédit en partageant les frais en plusieurs mois. Et puis, ils sont malins au Brésil. Du coup, chaque salaire était dépensé le mois même. Et puis, quand ils n'avaient plus d'argent, ils utilisaient la carte de crédit pour acheter un truc et la partager en plusieurs mois. Et ils sont malins au Brésil. Parce qu'on peut diviser en plusieurs fois au Brésil sans intérêt, même en 6 mois sans intérêt. Donc on paye le même prix, sauf qu'en plusieurs fois. Et c'est très sournois, parce qu'en partageant, ça diminue quand même l'argent qu'on a chaque mois. Du coup, on aura de nouveau besoin de la carte de crédit pour finir le mois, et ça va devenir une prison. On va toujours être dépendant pour la fin des mois de la carte de crédit, on va toujours diviser, puis on va toujours acheter de nouveau par la carte de crédit, même sans intérêt. Et c'est exactement comme la Bible, elle dit, ceux qui ont des dettes, le prochain verset, sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. Et chaque année, à la fin de l'année, Il y avait des reportages pour demander dans la rue, « Et alors, qu'est-ce que vous allez faire avec votre 13e salaire ?» Et beaucoup disaient, « Payer des dettes. » Avec le 13e salaire, payer des dettes. À l'époque de l'Ancien Testament, on pouvait réellement devenir esclave. Si on avait des dettes, on devait travailler pour l'autre jusqu'à ce que la dette soit payée. Donc, littéralement, celui qui prêtait de l'argent devenait le maître de celui qui empruntait. Celui qui avait emprunté devait travailler pour payer la dette. Mais aujourd'hui, ce n'est pas différent. D'ailleurs, pourquoi vous pensez qu'une carte de crédit s'appelle Mastercard ? C'est parce que nous, on est maître des dépenses. Non, c'est le contraire. C'est parce qu'eux, ils sont maîtres de ceux qui font des dépenses. Donc, épargner, c'est aussi une protection contre la dette. Le texte d'Ésaïe qu'on a lu la semaine dernière disait que le jeûne que Dieu voulait était de libérer les gens de tout ce qui les tenait esclaves. Donc épargner, c'est une protection contre devenir esclave et pauvre parce qu'on a décidé ou parce qu'on a dû dépenser plus que ce qu'on avait. Et que ce soit clair, je ne parle pas de bonne dette. C'est différent, la dette de l'achat d'une maison, d'un leasing, que la dette suite à un voyage. Ce n'est pas la même sorte de dette, bien sûr. Donc épargner, c'est une valeur biblique. Et elle est en deuxième place dans le schéma qu'on a mis, parce que si on ne fait pas ça au début, on risque de ne pas mettre suffisamment de côté à la fin du mois. Mais pourquoi pas la mettre en premier alors ? C'est intéressant que même dans Proverbes, qui valorise beaucoup le travail dur, qui demande d'être sage pour ne pas finir dans la pauvreté, qui parle beaucoup de gestion des finances. D'ailleurs, 4 des 5 versets qu'on a lus aujourd'hui, jusqu'à présent, étaient dans Proverbes. Mais même dans ce livre-là, dans la Bible, il met le donner comme un élément clé dans la gestion correcte de l'argent. Dans le livre de Proverbes, c'est marqué « Certains donnent largement et accroissent leur fortune, d'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. » Wow. Même dans Proverbe, donner vient avant épargner. Même dans Proverbe. Et qu'est-ce que Jésus disait sur l'épargne ? Jésus n'était pas préoccupé de savoir qui aurait plus d'argent à la retraite. Pour Jésus, il était plus préoccupé avec quelque chose d'autre. Il était préoccupé avec le cœur. Jésus était prêt avec le cœur de chacun. Le cœur. Et pour Jésus, un compte épargne sans plafond était dangereux. Et il a dit ça dans cette histoire qu'on va lire ensemble. Le riche fermier. Voici un fermier très riche. Il est riche parce que son sol est riche. Le maïs y pousse plus vite qu'ailleurs. Et plus haut qu'ailleurs. À l'époque de la moisson, c'est lui qui a la meilleure récolte. Heureux homme. Cette année, il a tant de maïs que sa vieille grange n'y suffit plus. Elle est pleine à craquer. Ce n'est pas grave, dit le fermier. Je vais la démolir et en construire une plus grande. Comme cela, l'année prochaine, je serai assez riche pour mener une vie heureuse. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais lors de la moisson suivante, la nouvelle grange ne peut elle non plus contenir toute la récolte. Le fermier avide avait planté davantage de maïs et des carottes en plus. Ce n'est pas grave, dit le fermier. Je construirai une grange encore plus grande et toute moderne. Ainsi, l'année prochaine, je serai plus riche encore. Je pourrai alors vraiment profiter de la vie. Aussitôt dit, aussitôt fait. À l'époque de la moisson suivante, même son immense grange toute moderne n'y suffit pas. Une fois encore, le fermier avait planté trop de maïs et trop de carottes et quelques choux en plus. Cette fois, le fermier se dit, « Je vais construire la grange la plus grande et la plus moderne du monde. Alors, je serai tellement riche que jamais plus je n'aurai besoin de travailler. » La grange qu'il bâtit touche le ciel. Quand elle est terminée, le fermier pousse un profond soupir de soulagement. « Demain, se dit-il, je vais rentrer la récolte. Et après, je pourrai enfin jouir de la vie. Tiens, j'ai une idée, je vais faire une grande fête. Mais c'est justement cette nuit-là qu'il meurt, en plein sommeil. Les oiseaux mangent son maïs, les lapins grignotent ses carottes et ses choux montent en graines. L'immense grange reste vide et jamais le riche fermier ne jouit de son argent. Pauvre homme. Jésus dit, il est bien bête celui qui passe sa vie à amasser des biens pour lui-même. Aux yeux de Dieu, c'est un pauvre homme. Comme dans 1 Timothée, Jésus savait que tout allait rentrer dans la boîte à la fin. Les comptes bancaires, les maisons, les PlayStation. La préoccupation de Jésus était que les gens fassent de ses biens le but de la vie en augmentant chaque fois leur épargne. Il était préoccupé que ça soit ça, le but de leur vie. Et il dit à un moment donné, c'est juste de la folie. Peut-être demain on fera ton ensevelissement. Regardez ce qu'il dit. Pauvre fou que tu es, dans ce passage-là du riche fermier. Pauvre fou, mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Du coup, quel est le plafond d'épargne pour ne pas faire comme ce monsieur de la parabole? Vouloir plus et plus et plus pour rien à la fin. Au Brésil, on conseillait que chacun ait 6 mois de salaire, qu'on ne touche pas, que c'est juste pour des urgences. C'était ce que était enseigné dans les cours de finance, dans l'église. Quel est le montant en Suisse? C'est vous qui devez décider dans votre famille combien on doit mettre de côté pour des imprévus, combien on va mettre pour des projets futurs et quand est-ce qu'on arrête de mettre? Quand est-ce qu'on arrête? Parce que pour que ça ne corrompe pas notre cœur. Regardez comment Jésus était préoccupé avec le cœur. Il dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Et le contexte est très intéressant parce que c'est quelqu'un dans la foule qui lève la voix puis dit, Jésus, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. C'est une demande légitime. Le père est décédé, un des frères garde tout l'héritage pour lui-même, ne partage pas avec son frère. C'est une question juste, c'est légitime. Puis Jésus lui répond, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Je ne pense pas que c'est une reproche, cette réponse. Il est juste en train de dire, « Ce n'est pas ma mission. Je ne suis pas appelé à ça, ce n'est pas le but de mon ministère. » Mais il ressent la douleur que cet acte a causée. On peut le voir d'abord parce qu'il l'appelle « mon ami », mais aussi parce qu'ensuite il regarde le reste de la foule et il dit ce verset « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Le problème, c'est que le désir de posséder a brisé les relations et puis ça a gâché la vie. Le frère qui a gardé l'héritage, il pense avoir la vraie vie en ayant plus d'argent. Et celui qui parle avec Jésus pense qu'il est malheureux parce qu'il n'a pas plus d'argent. Mais la vraie question, c'est que le désir de posséder a brisé cette relation. Du coup, les deux n'ont pas découvert la vraie vie. Et je ne voyais pas vraiment ce problème lié de l'argent aux relations avant, mais j'ai découvert beaucoup plus tard, avec un livre qui s'appelle « When Helping Hurts », quand t'aider, ça fait du mal. Quand t'aider, ça fait du mal. C'est le titre du livre. Imaginez, on habitait au Brésil, mes parents suisses, officiers du poste. Du coup, il y a une Suissesse qui va pour faire un stage de 3 mois, on va dire. Et puis, il y a un ado qui s'approche d'amitié de cette Suissesse. Et puis, un ado du poste, du coup, qui fait partie du projet, qui s'approche de cette Suissesse, et puis tout d'un coup, il se lie d'amitié, comme ça, normalement. Puis après, tout d'un coup, il dit, regarde, mes baskets, là, elles sont un peu vieilles. Pour aller à l'école, c'est quand même un peu dommage. Puis la Suissesse, avec toute bonne volonté, elle va avec lui dans un magasin de chaussures, puis il lui achète, demande de choisir. Ce n'est pas un problème pour elle, elle veut aider. Puis il lui achète une paire de chaussures et lui donne. Et après, qu'est-ce que ça fait? D'abord, les amis de cet ado, qui sont aussi membres du poste, commencent à dire « Ouais, tu t'es approché juste pour gagner un truc. Hein. Tu n'es pas vraiment son ami, en fait. » Après, les amis de cet ado avec la Suissesse, ils lui disent « Mais pourquoi ?» Ils vont se dire « Pourquoi il est meilleur que nous ? Pourquoi tu as aidé lui ?» Et pas nous, les autres. Nous aussi, on a d'autres besoins. Pourquoi lui et pas nous? Est-ce qu'il est meilleur que nous? Ça gâche aussi la relation entre les autres amis et la Suissesse. La Suissesse est l'ado. Mais est-ce qu'il est vraiment mon ami ou il s'est juste approché parce qu'il voulait me demander un truc? Ça gâche aussi ça. Après, l'officier avec l'ado, ça peut gâcher la relation. Parce qu'il avait déjà peut-être reçu des baskets à sa taille qu'il avait offert. Mais l'ado, il a dit, c'est pas vraiment à la mode, cela, c'est pas la marque que je voulais. Puis l'officier voulait enseigner, si tu veux pas ça, il faudra un jour travailler pour réussir à acheter ce que tu veux. Ce que j'ai à offrir, c'est celui-là. Si tu veux pas, trouve une manière de t'offrir toi-même. Il voulait enseigner la valeur de l'argent et de combien ça coûte vraiment une paire de baskets de marque. Et puis ensuite, si l'officier était suisse, c'est encore pire. Parce que l'ado, il va dire, il est aussi suisse, il aurait pu me donner. Mais il garde l'argent pour lui, sûrement. Parce qu'il m'a offert juste ces vieilles baskets qu'il avait reçues comme don. Ça gâche toutes les relations. Une bonne action de vouloir donner des baskets à quelqu'un, ça peut gâcher toutes les relations. Du coup, on conseillait toujours, c'est toujours mieux soutenir la communauté, le projet social de l'Armée du Salut ou l'Église de l'Armée du Salut, pour que toute la communauté grandisse ensemble et qu'il y ait moins de relations brisées par des différences que les biens apportent. Pourquoi lui, il reçoit plus? Pourquoi moi, je reçois moins? Et Jésus avait raison. La vraie vie ne dépend pas des biens. Le dernier point, donc, c'est profiter. Et pourquoi profiter? Pourquoi pas mettre juste vivre? Parce que c'est la manière que Ecclésiaste parle du résultat de notre travail. Ecclésiaste, il dit comme ça, « Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur. » Le raisonnement de Salomon dans Ecclésiaste est bien différent de celui de l'agriculteur dans l'histoire de Jésus. Dans le chapitre 2 d'Ecclésiaste, Salomon parle que c'est inutile de se tuer pour acquérir beaucoup et qu'il faudrait plutôt travailler tous les jours et à longueur de vie et profiter du résultat de son travail tous les jours et à longueur de vie. Tandis que l'agriculteur, il pensait comme ça. « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, seulement maintenant, repose-toi. » Mange, bois, réjouis-toi. Donc c'est un peu quand j'aurai tant et tant, là je profiterai et là je me réjouirai. Mais pour Jésus et pour Salomon, c'était de la folie de penser comme ça. Il fallait profiter de la vie et du résultat de son travail et se reposer comme un plan de Dieu. Il fallait faire de toute cette partie comme un plan de Dieu pour les finances, profiter régulièrement. Profiter, c'est une manière de dire merci au prochain. Merci pour mon travail, merci pour l'intelligence, merci pour la force pour travailler, merci pour ce pays, merci pour la stabilité financière. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de plus. J'ai déjà tout ce qu'il me faut aujourd'hui. Du coup, merci. Cette année, on a terminé le leasing de notre voiture après 4 ans. Et on a décidé d'aller remercier Dieu en famille. On a pris les enfants, les trois, on est allé laver la voiture, l'aspirer avec les enfants, bien fait, pas aussi bien que si on était seul, mais on a fait quand même. Et puis après, on a pris un moment pour prier, pour dire merci pour cette voiture, qu'elle soit utilisée pour le service de notre famille, pour bénir d'autres personnes. Et ça vient de tes mains, finalement. Et profiter de ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné. On a pris le temps pour ça. et profiter, c'est aussi ne pas se soucier de lendemain. Comme on a chanté chaque fois lors de cette série, ne vous inquiétez de rien. Dieu m'a donné pour aujourd'hui. Dieu va me donner pour demain aussi. Je peux être dans la joie et profiter aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'attendre que j'aie plus et plus et plus pour profiter et vivre. C'est maintenant. Et c'est exactement avec ce passage de la chanson que je veux terminer cette série avant de prier et de rechanter ce chant. Je ne l'ai pas écrit ce passage. J'aimerais juste que vous l'écoutiez en transformant les questions que Jésus a posées pour votre contexte actuel. Sur la préoccupation actuelle qui est dans votre cœur. Transformez la question de Jésus pour votre contexte actuel, comme s'il posait cette question pour toi, personnellement. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger ou qu'est-ce que nous allons boire ou avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez en effet besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus, tout le reste. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour ce plan merveilleux de ta parole pour notre rapport à l'argent. Merci parce que tu veux nous donner une vie libre, vraiment libre. Libre des soucis que l'argent peut apporter, libre des relations gâchées que l'argent aussi peut apporter. Mais de voir l'argent vraiment comme un outil de tes mains pour notre plaisir, pour bénir d'autres personnes, pour nous protéger aussi d'une forme d'esclavage, de dette par exemple. Et je te demande qu'on puisse gérer tout ce que tu mets dans notre main comme des bons intendants. En étant convaincu que ça vient de toi, que tu nous donnes pour gérer de la meilleure manière possible et de gérer tout pour la gloire de ton nom. Amen.